Vous êtes avec SBS French.
Et les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 14 janvier. Le virus recule en Australie. Aucun nouveau cas de transmission locale du Covid-19 n'a été détecté dans le Victoria et pas non plus en Nouvelle-Galles du Sud. Aux États-Unis, le Congrès vote la mise en accusation de Donald Trump. Même les élus républicains demandent le départ immédiat du président sortant. Et en France, on a appris il y a quelques heures le décès d'une femme politique, la députée Marielle de Sarnez. Passer sa quarantaine dans une mine désaffectée, c'est l'idée défendue par le gouvernement du Queensland après l'apparition la semaine dernière à Brisbane du variant anglais du Covid-19 dans la population locale. Ce variant du Covid-19, il avait été transmis par un voyageur en quarantaine dans un hôtel du centre-ville à l'un des employés de cet hôtel. Et c'est pour cette raison que le gouvernement du Queensland considère que ces hôtels qui sont utilisés comme lieu de quarantaine et qui souvent se trouvent en plein centre de grandes villes, eh bien c'est un risque de propagation trop important et qu'on pourrait réduire si ces personnes placées en quarantaine étaient à la place envoyées dans des lieux isolés, très isolés même. C'est en tout cas l'idée que défend la chef du gouvernement du Queensland, Anastasia Palaszczuk.
I think with this new strain, we have to put all options on the table. And these are sensible, rational options. Howard Springs works very well in the Northern Territory, and there's no reason why we couldn't do something similar here in Queensland, or if not, around the country. If we are dealing with a strain which is up to 70% more infectious, I think we need to be really serious about it.
Alors, sérieux, en tout cas, Brad Hazard, le ministre de la Santé, lui, de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ne trouve pas que cette proposition le soit vraiment. Pour lui, il est essentiel que les personnes en quarantaine, qui sont potentiellement porteuses du virus et qui peuvent donc tomber malades, il est essentiel pour lui que ces personnes restent à proximité immédiate de bonnes infrastructures hospitalières.
But we simply do not believe that there would be any advantage, in fact distinct disadvantages, for us to be considering moving our public health hotels out of the Sydney regional area. If we do get people who deteriorate, we want them to be able to be transferred to a major tertiary hospital as quickly as possible. In other words, one that has the preeminent specialists available to look after people who may end up with COVID.
Bon, si ce n'est ces derniers rebondissements avant tout de nature politique, les choses vont plutôt bien et vont en tout cas mieux en Australie sur le front du Covid-19. La Nouvelle-Galles du Sud n'a signalé aucun nouveau cas transmis localement aujourd'hui et aucun nouveau cas non plus dans l'État du Victoria qui en est à son 8e jour d'affilée sans aucun nouveau cas. Et ces bons résultats, eh bien, ils déclenchent la réouverture de la frontière de l'Australie méridionale. En tout cas, elle rouvre pour les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud rurale. Depuis ce matin, ils peuvent à nouveau se rendre dans cet État voisin. En revanche, ils restent soumis à des conditions un peu particulière. Ceux qui décident de passer la frontière d'Australie méridionale depuis la Nouvelle-Galles du Sud vont devoir subir 3 tests de dépistage du coronavirus au cours des 12 jours qui suivent leur arrivée en Australie méridionale. En revanche, pour les habitants du Grand Sydney, il va falloir attendre encore un petit peu pour l'instant. Pour aller à Adélaïde ou ailleurs dans cet état, la quarantaine reste obligatoire. Et puis pour finir ce chapitre australien, le chiffre du jour, 200 milliards de dollars, c'est la somme que les Australiens auraient mis de côté depuis le début de la pandémie, un niveau d'épargne qu'on n'avait pas vu en Australie depuis quasiment 30 ans. Et cet argent mis de côté, eh bien, il tombe plutôt bien pour le ministre de l'économie, Josh Frydenberg, sur Nine News. Il a estimé que c'est grâce à ces sous mis de côté que les Australiens ne subiront pas trop la suppression à la fin du mois de mars de JobKeeper.
And this money will help underpin our economic recovery and avoid a fiscal cliff as some of those temporary emergency economic support measures taper off.
Aux États-Unis, la procédure de destitution qui vise Donald Trump et qui a été ouverte au Capitole par les élus démocrates vient de franchir une première étape importante. La mise en accusation formelle du président a été déposée et c'est une surprise, elle a été votée aussi par des élus républicains. On fait le point avec la correspondante de Radio France Internationale à Washington, Anne Corpet.
C'est une mise en accusation bipartisane. 10 élus républicains ont voté en sa faveur. Il n'y en avait eu aucun l'année dernière lors de la première procédure en destitution intentée contre Donald Trump. Et jamais autant d'élus du parti au pouvoir à la Maison-Blanche n'ont voté en faveur de la mise en accusation de leur président. L'intrusion violente des partisans du président au Capitole, son discours juste avant le saccage du Congrès, son refus constant d'accepter le verdict des urnes ont convaincu ces républicains de contribuer à l'entrée de Donald Trump dans l'histoire par une porte peu glorieuse. La prochaine étape, vous l'avez dit, aura lieu au Sénat. Mitch McConnell, qui dirige actuellement la majorité à la Chambre haute, vient de faire savoir qu'il n'organisera pas le procès du président avant la prochaine session régulière. Elle est prévue le 19 janvier, à la veille de l'investiture. C'est donc sous la présidence Biden et avec le démocrate Chuck Schumer à la tête de la nouvelle majorité au Sénat qu'aura lieu le procès du président. Son issue reste incertaine. Pour que Donald Trump soit reconnu coupable, il faudra les voix de 17 sénateurs républicains.
Et pendant ce temps-là, la capitale américaine dans son ensemble reste sous tension. 15 000 soldats de la garde nationale sont déployés depuis la semaine dernière autour et à l'intérieur du Capitole. La représentante démocrate Alexandra Ocasio-Cortez était dans le bâtiment quand il a été envahi la semaine dernière par des partisans du président sortant. Une attaque au cours de laquelle la jeune députée a cru qu'elle allait mourir.
I had a pretty traumatizing event happen to me. I can tell you that I had a very close encounter where I thought I was going to die.
En Grande-Bretagne, des centres de vaccination ouverts 24 heures sur 24 vont bientôt voir le jour. Le pays qui peine à endiguer un nouveau variant plus contagieux du coronavirus compte vacciner en premier les membres des groupes les plus vulnérables au sein de la population. D'abord les personnes âgées de plus de 80 ans, mais aussi le personnel soignant. Le lancement de ce nouveau dispositif est prévu pour le 15 février, mais à en croire le Premier ministre Boris Johnson, on commence déjà à ressentir les effets de la campagne de vaccination. Le Royaume-Uni est en effet le premier pays dans le monde à avoir autorisé la mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19.
My gratitude to all those involved because they've now vaccinated 2.4 million people. We are now seeing the beginnings of some signs that is starting to have an effect in many parts of the country, but by no means everywhere.
En Italie, c'est un procès hors norme qui vient de commencer dans le sud du pays. Plus de 900 personnes vont être appelées à témoigner dans cette affaire qui mêle à la fois corruption, rackets ou encore assassinat. Sur le banc des accusés, c'est la 'Ndrangheta, la plus puissante des organisations mafieuses italiennes. Et en face, il y a un homme, le procureur Nicola Gratteri. Il a grandi dans la même région que la plupart des membres de cette mafia calabraise. Depuis Rome, Anne Lenir nous en dresse le portrait.
Cet homme, c'est Nicola Gratteri, procureur en chef du parquet de Catanzaro depuis 2016, après avoir dirigé celui de Reggio de Calabre. Âgé de 62 ans, il vit sous escorte policière depuis 1989, époque où il a entamé sa lutte contre la 'Ndrangheta, une organisation criminelle désormais présente dans le monde entier qu'il connaît depuis son enfance, car il est né à Gerace, un village de la Locride où les premiers clans que l'on appelle les 'Ndrine se sont constitués. Il rappelle souvent qu'il fréquentait la même école que les fils des boss locaux et que son vécu l'a marqué au point de décider très tôt d'embrasser la carrière de magistrat. Mais ce père de deux enfants médecins qui ont dû fuir la Calabre aime aussi rappeler ses racines rurales. Il se décrit avec humour comme un agriculteur infiltré dans la magistrature. Il espère que le maxi-procès contre la 'Ndrangheta qui vient de s'ouvrir permettra au moins de poser un jalon dans l'édification d'un mur contre toutes les mafias. Anne Lenir, Rome, RFI.
Un procès hors norme donc qui vient bientôt démarrer et qui est également inédit par le fait du nombre très important de mafieux repentis, d'anciens membres haut placés de la 'Ndrangheta qui vont témoigner contre leurs anciens frères d'armes. Contrairement aux autres mafias, la loi du silence était jusqu'à présent toujours rigoureusement respectée par les membres de la 'Ndrangheta. C'est l'éclairage de Federico Varese, il est professeur à l'Université d'Oxford.
Oui, il y a 58 repentis qui vont participer à ce procès et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi eux, on compte le fils du chef des Mancuso qui va témoigner contre sa propre famille. C'est plutôt un fait nouveau au sein de la 'Ndrangheta. Ça se voyait plutôt en Sicile où les membres de la mafia ne sont pas recrutés en fonction des liens du sang. Jusqu'ici, c'était très rare en Calabre parce qu'en Calabre, quand tu es mafieux, dénoncer tes collaborateurs, ça signifie dénoncer ton père, ta mère, ta sœur ou tes fils, c'est autrement plus difficile. La nouveauté, c'est que ce processus commence à porter ses fruits en Calabre et je crois qu'il faut le porter au crédit du procureur qui n'a jamais rien lâché. Les mafieux ont quasiment la certitude de passer plusieurs dizaines d'années en prison et cette perspective a dû en décider quelques-uns. Mais si vous prenez le fils Mancuso, il a dit qu'il le faisait aussi pour sa fille, pour ne pas qu'elle grandisse dans cet environnement. Donc il y a des motivations éthiques, mais ce qui prime, c'est surtout la peur de passer sa vie derrière les barreaux.
Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, il a survécu à un empoisonnement qui s'est déroulé au cours du mois d'août et dont on soupçonne les services russes d'en être les commanditaires. Eh bien, Alexei Navalny, malgré ses difficultés, a annoncé son intention de retourner à Moscou dès dimanche. Le Kremlin et Vladimir Poutine, de leur côté, font eux tout leur possible pour empêcher son retour. On va retrouver Anastasia Becchio de Radio France Internationale pour nous donner quelques explications.
Dimanche 17 janvier, je rentre à Moscou. Venez m'accueillir. C'est par ces mots qu'Alexei Navalny termine sa courte vidéo postée sur Instagram. Elle accompagne un message écrit dans lequel il explique les raisons de son retour. La question « revenir ou pas » ne s'est jamais posée pour moi. Simplement parce que je ne suis pas partie. J'ai été transportée en Allemagne dans une boîte de réanimation. L'opposant, qui a été empoisonné par un agent neurotoxique selon les conclusions de 3 laboratoires européens et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, estime que le pouvoir russe fait tout pour l'empêcher de revenir en Russie. « J'ai survécu et maintenant Vladimir Poutine, qui a ordonné mon assassinat, dit à ses serviteurs de tout faire pour que je ne rentre pas. » À la fin du mois dernier, une enquête pour fraude à grande échelle a été ouverte contre lui. Selon le comité d'enquête russe, Alexei Navalny est soupçonné d'avoir dépensé pour son usage personnel pour près de 4 millions d'euros de dons. Cette semaine, la justice a enregistré une plainte demandant la conversion d'une peine de prison avec sursis datant de 2014 en prison ferme. Elle sera examinée le 29 janvier.
En France, le gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles mesures de restriction pour freiner la pandémie de coronavirus. Actuellement, une partie du pays est placée sous couvre-feu dès 18h. Ce pourrait être le cas de tout le pays, en tout cas le temps du week-end, pour réduire encore les contacts au sein de la population et donc les risques de propagation du virus. Le gouvernement, qui réfléchit à plusieurs options, va faire une annonce demain. En attendant, on va écouter Olivier Sherman nous exposer les différentes pistes envisagées.
Il y a aujourd'hui 25 départements sous couvre-feu en France de 18h à 6h du matin. 25 départements de l'est du pays et cette mesure, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, permet une circulation moins importante du virus. Jean Castex ajoute même que les chiffres actuels nous laissent à penser que le couvre-feu suffit. Mais il faut faire vite pour éviter une accélération de l'épidémie en France. Ce couvre-feu à 18h pourrait donc s'étendre à d'autres départements qui, eux, sont sous couvre-feu à partir de 20h. Il pourrait même être national. Autre possibilité, un couvre-feu généralisé à 18h avec un reconfinement total uniquement les week-ends, le but étant de limiter totalement les déplacements et d'éviter que certains Français profitent de ces 2 jours de repos pour se déplacer ou voir de la famille. La piste d'un 3e confinement semble pour l'heure écartée. Cette option est considérée comme le dernier recours pour l'exécutif, mais pour de nombreux scientifiques, cette solution est inéluctable.
Une figure de la politique française a disparu hier. La députée Marielle de Sarnez est décédée à l'âge de 69 ans. Elle a été ministre, elle a également cofondé le parti Modem avec François Bayrou. François Bayrou qui est l'un de ses plus proches amis. Anne Souhaitemont nous dresse son portrait.
C'est son ami de toujours, celui dont elle était la boussole et le bras droit, François Bayrou, qui l'a annoncé. Marielle, si talentueuse et si courageuse, vient de partir. Notre chagrin est immense. Entrée en politique dans les années 70 pour soutenir la candidature à la présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, Marielle de Sarnez remporte sa première victoire électorale au niveau européen. En 99, elle est élue eurodéputée et le sera d'ailleurs de nouveau 5 ans plus tard. Dans la foulée de la 3e place de François Bayrou à la présidentielle de 2007, elle cofonde avec lui Modem. Son rôle dans la définition d'un parti centriste, affranchi du clivage classique droite-gauche, est présenté alors comme déterminant. L'Europe, un ADN pour cette femme au style décontracté mais toujours chic. Elle sera nommée ministre des Affaires européennes par Emmanuel Macron en 2017, une consécration, mais elle devra lâcher ce portefeuille quelques semaines plus tard, mise en cause dans une enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'euro-assistant. Elle sera ensuite mise en examen. Aujourd'hui députée, Marielle de Sarnez présidait la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nombre de parlementaires lui rendent ce soir hommage, et ce bien au-delà de son parti. Exemple avec Jean-Luc Mélenchon, qui évoque ce soir sur Twitter une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité.
Un mot sur le tennis et plus précisément sur l'Open d'Australie. C'est aujourd'hui qu'arrivent les premiers joueurs et entraîneurs pour le Grand Chelem de Melbourne. Au total, 1200 personnes vont arriver de l'étranger à bord de 15 vols privés et dont le premier donc va atterrir en fin de journée à Melbourne un peu plus tard aujourd'hui. Alors tous ces joueurs, ils vont devoir, comme toutes les autres personnes qui arrivent en Australie depuis un autre pays, se soumettre à une quarantaine avant de pouvoir vraiment poser leurs valises. Ils vont être très encadrés, testés tous les jours au cours de leur arrivée en Australie. Et on rappelle donc que l'Open d'Australie, l'Open de Melbourne, sa date d'ouverture a été décalée. Cette année, ce sera prévu pour le 8 février. Et puis pour finir maintenant, on jette un œil à la météo du jour en Australie. Grand soleil à Perth où il va faire jusqu'à 35 degrés aujourd'hui, 25 degrés à Adélaïde où le ciel est partiellement voilé, grisaille également sur Melbourne avec 23 degrés attendus, jusqu'à 30 degrés à Sydney aujourd'hui où il fait également très beau malgré un petit risque d'orage. À Brisbane, le ciel devrait rester tout bleu aussi avec 31 degrés et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.